Chapitre 16e. La dévotion au cœur de Jésus commence à transpirer dans le monde. Colère des uns, enthousiasme des autres. Pourquoi les nations ont-elles frémi et pourquoi les peuples ont-ils fait de vains complots? Ils viendront et ils adoreront. La sainte est morte. Il n'y a donc plus d'obstacle à la gloire du cœur de Jésus. Le pur albâtre est brisé. Que le parfum se répande. C'est ce qu'avait annoncé la Bienheureuse et ce qui arriva. À peine la Vierge eut fermé les yeux, que les secrets cachés dans la profondeur des monastères de Paray, Dijon, Moulins, Sémur s'échappèrent. Le Père Croiset publia la vie abrégée de la Sainte. L'incomparable mémoire de Marguerite Marie vit le jour. Et en un instant, le bruit des grandes révélations du Sacré-Cœur remplit la France et l'Église. Il semble qu'une telle révélation, si elle n'était pas accueillie avec enthousiasme par tous, aurait dû ne rencontrer d'opposition nulle part. Car qu'y a-t-il de plus naturel que la dévotion au cœur de Jésus? Qu'y a-t-il qui sorte plus lumineusement des entrailles du christianisme et de l'humanité? Partout et toujours, on a honoré le cœur de l'homme. Comment donc s'étonner que nous adorions le cœur de l'homme, Dieu? Le cœur est l'organe de l'amour. À peine né, avant même de mettre la main sur son front et de dire « je pense », l'homme a mis la main sur son cœur et il a dit « j'aime ». Était-ce une inspiration de Dieu, sens intime, mouvement instinctif, quoi qu'il en soit? De cette première impression, on n'en est pas revenu depuis 6000 ans. Prenez les plus grands génies de l'Antiquité, Moïse, Job, David, Salomon, Isaïe, prenez Homère, Euripide, Théocrite, Ovide. Pour eux, comme pour saint Augustin, le Dante, le Tasse, Shakespeare, Corneille, Bossuet, Racine, pour les auteurs sacrés comme pour les auteurs profanes, le cœur est le siège des grandes affections. Il s'émeut dans le bonheur, se contracte dans la tristesse, bat plus fort et plus vite dans l'enthousiasme, se brise quelquefois dans l'amour, comme ces instruments sonores qui éclatent sous la passion du grand artiste qui les touche. Il n'y a rien de plus divin dans l'ordre des choses naturelles que l'union de notre âme et de notre corps. Si nos moyens d'investigation étaient plus perfectionnés, nous aurions dans les moindres sinuosités du cerveau la révélation des plus imperceptibles pensées de notre esprit. De même, si une main délicate, la main d'un ange, par exemple, était posée sur sa poitrine, on connaîtrait les plus légers mouvements d'amour, bon, mauvais, élevé, pur, noble, médiocre, misérable, qui à chaque minute font palpiter notre cœur. Aussi, dans tous les temps, sous tous les cieux, quand on a voulu avoir un emblème d'amour, on a représenté le cœur. Un peu moins, je le sais, dans l'Antiquité, parce que l'homme alors aimait avec ses sens. Beaucoup au contraire et exclusivement dans les temps chrétiens, parce qu'on y aime avec le cœur. L'Antiquité cependant, si plongée dans les sens, n'a pas ignoré l'amour pur, idéal, et la représentation du cœur n'y était pas inconnue. Je n'ai presque rien trouvé, il est vrai, chez les Grecs, ce peuple léger, si ce n'est quelques bagues et quelques médailles, où le cœur est gravé comme souvenir et comme emblème. Les Égyptiens, au contraire, si profonds de pensée, estimaient que chez l'homme le cœur était tout. Et dans le scarabée divin qui reposait sur la poitrine de l'Égyptien, il y avait une mention spéciale du cœur, ce grand ressort de tout l'homme. Il en était de même des Romains, et avant eux des Étrusques, dont Cicéron disait qu'ils étaient les plus religieux de tous les peuples. Ils suspendaient au cou de leurs jeunes gens des bijoux, et souvent ils leur donnaient la forme de cœur pour leur rappeler, dit un auteur païen, que sans cœur, il n'y a pas d'homme. Et avant même la jeunesse, comme si elle avait craint qu'une telle leçon arrivât trop tard à leurs enfants, les mères l'attachaient à la boucle des cheveux de leur premier-né. Les Gaulois, si bons, si ardents, si tendres, et Tacite le dit si chaste, n'avaient pas été étrangers à cette doctrine. Il y a des raisons de croire que leurs femmes portaient un cœur suspendu au cou et que leurs époux avaient à leurs doigts un anneau où l'on avait gravé deux cœurs unis. Quand le christianisme parut, ce qui n'était qu'un germe dans l'Antiquité, s'épanouit au soleil plus chaud de l'Évangile. Ces bulles d'or que les jeunes païens portaient au cou, remplies d'amulettes, on les remplit des reliques des saints et des martyrs. Ou bien, on y grava leur image et on leur donna de plus en plus la forme de cœur. Cette forme, cette image du cœur, on se plut à la multiplier. On la grava sur le pied des vases sacrés, sur la couronne des rois. On la peignit et on la broda dans les tissus les plus précieux du Moyen-Âge. On aima à la retrouver jusque dans les jeux et les délassements de la vie. Surtout, on la grava sur les anneaux du mariage. On la suspendit aux autels et on la plaça sur les tombes, comme un souvenir et comme le symbole d'une affection qui survivait à la mort. Bientôt, la chevalerie parut, et comme elle avait besoin d'un signe mystérieux pour cacher et révéler à la fois celui dont le casque couvrait le visage, on créa le blason. Et aussitôt que le blason eut été créé, le cœur y apparut. Il étincelle sous mille formes diverses dans les armoiries des plus antiques familles de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique. Un cœur blessé, un cœur enflammé, deux cœurs unis, un cœur couronné, un cœur traversé d'une flèche, etc. Révélation discrète de ce cœur délicat, sensiblement blessé, heureux, triste, qui battait sous la rude armure de fer. On ne devait pas s'arrêter dans cette voie, et de plus grands hommages, plus vivants, plus saisissants, allaient montrer ce qu'est le cœur dans la pensée de l'humanité. Après tout, elles étaient bien froides, ces représentations du cœur, en or, en argent, en pierres précieuses. Pourquoi, quand un homme était mort, un grand homme, un héros, un bienfaiteur, un saint, n'en trouverait-on pas respectueusement sa poitrine? Pourquoi n'en tirerait-on pas son cœur, cette relique sacrée de l'amour, et l'embaumant dans tous les parfums de la reconnaissance? Ne le garderait-on pas comme un souvenir? On le fit partout. Partout, on conserva le cœur de l'homme. On le porta même en triomphe. On lui fit de solennelles et exceptionnelles sépultures. Et il n'est pas une de nos cathédrales qui ne conserve quelque exemple touchant au sublime de cette vénération de l'homme pour le cœur de l'homme. Bientôt, une pensée plus délicate encore se fit jour. Sur le bord de la tombe, cherchant ce qu'il pourrait laisser à ceux qu'il avait tendrement aimés, dédaignant l'or et l'argent, capables au plus haut de rémunérer les services inférieurs, l'homme conçut la pensée de laisser son cœur à ceux qui lui étaient le plus chers. C'était leur léguer, sous une forme symbolique, l'amour dont il avait été consumé. L'incinération n'avait pas permis aux anciens ce legs touchant et sublime. Il devint universel dans les temps chrétiens. Les rois, les reines, les princes, les évêques, les saints eux-mêmes firent de telles donations. Et quand on parcourt nos vieilles basiliques, nos antiques abbayes, Saint-Denis par exemple, ou Fontevraud, on rencontre à chaque instant des urnes en marbre, en albâtre, en bronze, qui renferment le cœur d'un roi, d'une reine, d'un prince, lesquels, possédant des terres immenses, ont déclaré que ce qu'ils pouvaient léguer de plus précieux à ceux qui les aimaient, c'était leur cœur. Voilà l'histoire de l'humanité, à tort ou à raison, depuis 6000 ans. Elle estime que s'il y a quelque chose qui est un peu de valeur sur cette pauvre terre, c'est l'amour. Et que le sanctuaire de l'amour, son tabernacle, son ciboire consacré, c'est le cœur. Elle méprise tout le reste. Elle n'estime que cela. Elle porte en triomphe non pas la poussière de l'épée de l'homme, ni la poussière de son sceptre, ni même la poussière de son génie sur toute la surface du monde. Elle n'a jamais porté en triomphe que la poussière de son cœur. Et plus ce cœur a été bienfaisant, noble, élevé, pur, battant pour les autres et non pour lui, plus elle lui a fait des honneurs exceptionnels. Qu'est-il donc étonnant que le jour où apparut un cœur qui surpassait tous les cœurs, on ait éprouvé pour lui un enthousiasme sans égal? Ce n'eût été qu'un cœur d'homme, on l'aurait porté en triomphe. Mais c'était le cœur de l'homme Dieu. L'hommage ne pouvait plus suffire, il fallait l'adoration. C'est ici que l'on se heurte à un de ces problèmes, comme il y en a des milliers dans l'histoire de notre pauvre humanité. Tant qu'il ne s'était agi que d'aimer, d'honorer, d'exalter le cœur de l'homme, il n'y avait pas eu une objection. Dès qu'il fut question du cœur de Jésus, ce fut un déchaînement. Chose singulière, les plus grandes idées, les conceptions les plus légitimes et les plus touchantes, dès que la religion les consacre, on les rejette. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus lumineux que l'unité de l'espèce humaine? La fraternité de tous les hommes et de tous les peuples? Supposez que la Bible enseignât le contraire. Avec quelle indignation, quels efforts de science, on établirait que nous sommes tous frères? Mais non, parce que la Bible le dit, on dépense des trésors d'esprit, d'érudition, pour établir que nous n'avons rien de commun avec les nègres. En revanche, nous sommes les enfants des singes. Pareille chose arriva quand il fut question du cœur de Jésus. À peine ce signe doux et auguste commença à se lever sur le monde, qu'il y eut comme une révolte universelle. Jansénistes, rationalistes, beaux esprits, académiciens, et des prêtres, hélas, et des évêques prirent la plume, et il n'y eut point de raillerie et de mépris sous lesquels on essaya de faire succomber cette tendre et profonde dévotion. Les uns disaient que c'était une dévotion nouvelle, comme si l'Église s'était interdit et pouvait jamais s'interdire les dévotions nouvelles. Une dévotion n'est pas un dogme, c'est un acte d'amour. Demander à l'Église de n'avoir pas de dévotion nouvelle, c'est demander à un foyer ardent de ne pas pousser vers le ciel de nouvelles étincelles. C'est demander à un cœur qui aime de s'enfermer dans les mêmes manifestations de tendresse et de ne rajeunir jamais par une expression nouvelle. L'immuable amour qui fait le fond de son âme. Il y a 1800 ans que Jésus-Christ est mort sur une croix et que l'Église s'agenouille à ses pieds, l'y adore et l'y aime. Mais n'imaginez pas qu'elle eût, à toutes les époques, la même manière de lui témoigner cet amour. Il y a des temps où ce qu'elle baisait de préférence, c'était ses pieds qui s'étaient fatigués pour nous, et d'autres où ce qui touchait le plus profondément les âmes, c'était son front couronné d'épines, sa sainte face sillonnée de larmes. Aujourd'hui, nous montons jusqu'à sa poitrine et baisons son cœur, afin de nous réchauffer et de nous embraser davantage. Étranges gens que vous êtes, vous qui attaquez l'Église, si nous ne marchons pas, si nous nous enfermons dans nos dogmes immuables, vous dites que nous sommes des momies, et si nous marchons, si nous déployons l'amour qui est en nous, vous dites que nous inventons des nouveautés. Ignorant ainsi et blasphémant le double et sublime caractère de l'Église, l'immutabilité de la foi et la marche de l'amour. D'autres disaient que c'était une dévotion absurde. Comment ? Absurde d'honorer le cœur d'un père, d'aimer, de vénérer, de conserver avec un pieux respect le cœur d'une mère. Mais ils étaient si furieux de voir que le cœur de l'homme Dieu recevait les adorations de la chrétienté, qu'ils en venaient jusqu'à nier le cœur de l'homme. Afin de pouvoir poursuivre ce noble organe dans la poitrine même de l'homme Dieu, ils préféraient donner un brutal démenti à l'humanité tout entière, qui a toujours placé dans le cœur le siège des affections. Ils appelaient le cœur de l'homme un petit morceau de chair, un muscle, et dans le tableau du sacré cœur, ils ne voyaient qu'un grand foie rayonnant, indiquant assez par cette fureur qu'un coup décisif venait de leur être porté. D'autres, enfin, c'étaient les délicats, trouvaient cette dévotion trop matérielle. Adorer la chair, la matière, disaient-ils, quelle dégradation! Comme s'il était venu à l'esprit de qui que ce fût, de séparer le cœur matériel de Jésus-Christ du feu sacré de son amour, auquel nous adressons nos vénérations et nos hommages. Comme si le cœur de Jésus-Christ était plus matériel que n'étaient ses pieds et ses mains que nous baisons, sa couronne d'épines que nous portons en triomphe, sa croix de bois qu'il a teinte de son sang et devant laquelle, pour cette raison, nous nous mettons à deux genoux. Non, ce qu'il refusait d'adorer, ce n'était pas la chair. L'heure approchait où ces délicats allaient l'adorer. Vivante et souillée, dans le sanctuaire profané de Notre-Dame, ce qui les effrayait, c'était la chair souffrante et meurtrie. Ils faisaient semblant de dire que c'était une dégradation de l'adorer, mais au fond sentaient bien que l'adoration de la chair meurtrie de Jésus-Christ, c'est la condamnation de toutes les déchéances de la chair. L'apothéose de l'amour pur, la glorification du sacrifice, c'est-à-dire l'honneur rendu à ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, de plus intellectuel et de plus divin dans le cœur. Heureusement, plus haut que l'homme, il y a l'humanité. Plus haut que les parties étroites, violentes, superficielles, qui s'évanouissent comme la passion, comme la colère, il y a l'humanité sereine, qui écoute les mauvaises raisons, qui sourit et qui passe outre. Ce fut ce qui arriva ici. Correspondant aux besoins les plus profonds de l'âme humaine, répondant suavement et efficacement aux tristes plaies de cette époque, la dévotion au cœur de Jésus commence dès le lendemain de la mort de la Bienheureuse, sa marche triomphante. Les visitations donnent le signal. Déjà Paray, Dijon, Moulins, Sémur avaient arboré la bannière du cœur de Jésus. On voit, dans les années suivantes, tous les autres monastères se ranger à l'envi autour d'elle. En 1690, Marseille, Montbrison, Nantes. En 91, Autun, le premier de Lyon, Fribourg, le deuxième de Rennes. En 92, Besançon, Blois, Loudun. En 93, Aix, Bordeaux, Bourges, Fort-Calquier, Langres, le deuxième de Lyon, Nevers, Valence, Toulouse. En 1694, Dieppe, Thonon, le deuxième de Marseille, Salins. 95, Chaillot, Périgueux, Pont-à-Mousson, Montargis, Blois. 96, Nancy, Aurillac, Romans, Naples. 1697, le premier de Rouen, Rumilly, Arronne, Caen, Condrieu. 98, le deuxième de Paris, Orléans, Mamers, Vannes. 99, Montferrand. En 1703, Metz, Saint-Étienne. Et peu après, Amiens, Auxerre. Le siècle est à peine fini. Il n'y a que 10 ans que la bienheureuse est morte, et déjà toutes les visitations se sont levées les unes après les autres pour se consacrer au cœur de Jésus. Nous serions infinis si nous voulions noter tous les faits touchants, gracieux, sublimes, tous les épisodes charmants qui signalèrent cette marche triomphante du culte de l'amour de Jésus à travers les visitations. Chacune d'elles y puise la force de demeurer fervente au milieu des abaissements du XVIIIe siècle et d'y rester tendre et aimante en face des sophismes glacés du jansénisme. Et ce feu sacré que la visitation garde avec tant de soin, si triste que soient les temps, elle le rayonne à travers ses grilles. Chaque communauté est le centre d'une confrérie du Sacré-Cœur où toute la contrée voisine se réchauffe. Et pour ne citer qu'un fait, en 1698, 8 ans après la mort de la Sainte, la confrérie de Dijon comptait 12 à 13 000 associés, non seulement en Bourgogne, France, mais en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Un tel mouvement n'eût pas été possible si les évêques de France, supérieurs nés de toutes les visitations, ne l'eussent pas approuvé. Aussi, on les trouve partout, bénissant les chapelles, érigeant les confréries, présidant eux-mêmes à ces premières fêtes si intimes, si recueillies et si douces du cœur de Jésus dans l'intérieur des monastères. Bientôt même, ils lui ouvrent leur cathédrale. En 1688, Charles de Brienne, évêque de Coutances, établit dans son diocèse la fête du Sacré-Cœur de Jésus. En 1694, Antoine-Pierre de Gramont, archevêque de Besançon, ordonne qu'elle sera célébrée dans sa métropole. En 1719, François de Villeroy, archevêque de Lyon, publie un admirable mandement en faveur de la dévotion au Sacré-Cœur, qu'il établit lui aussi dans toutes les églises de son diocèse. Chose remarquable, l'évêque d'Autun, sollicité par 5 monastères à la fois, n'accorda la permission de faire cette fête avec messe et office propre que l'année 1713, vérifiant ainsi contre toute vraisemblance une parole de la Bienheureuse qui avait annoncé que la fête du Sacré-Cœur s'établirait dans toute la France avant d'être autorisée dans le diocèse même où cette dévotion avait pris naissance. Ainsi, en 20 années, la dévotion au cœur de Jésus avait déjà fait le tour de la France. Cependant, cette marche triomphante du culte de l'amour était encore lente et timide, jusqu'à ce que tout à coup, en 1720, 30 ans après la mort de la Bienheureuse, un fait extraordinaire vint la précipiter. La peste, arrivée d'Orient, s'était abattue sur la ville de Marseille et y avait déjà moissonné 40 000 hommes. Un silence de mort planait sur les rues et sur les places publiques encombrées de cadavres. Vainement, on avait eu recours aux prières et aux pénitences. Rien n'avait pu désarmer la colère divine. Lorsque le Saint-Évêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce, reçut une inspiration céleste. Elle lui vint d'une religieuse de la Visitation, la mère Anne-Madeleine Rémusa, auprès de laquelle il venait souvent réchauffer son cœur et enflammer son courage, et qui ne cessait de l'exhorter à mettre tout son espoir dans le cœur adorable de Jésus. Un jour donc, le 1er novembre 1720, comme un autre Borromée, il sortit de son palais, accompagné de tous les religieux, de tous les prêtres, de toutes les âmes saintes, pieds nus, la corde au cou, la croix entre les bras. Et quand il fut arrivé sur la principale place publique de Marseille, il s'agenouilla Et là, dans un silence qui n'était interrompu que par les sanglots et les gémissements de l'assemblée, il voua solennellement son diocèse au cœur de Jésus. Dès ce moment, la peste cessa avec un tel enchantement qu'il n'y eut plus à partir de ce jour un seul enterrement à Marseille. Mais comme le corps de la ville n'avait pas voulu s'associer à cette démonstration, 2 ans après, le fléau reparut. Alors, se repentant de leur faute, les échevins firent vœu d'aller chaque année le jour de la fête du Sacré-Cœur communier dans l'église de la Visitation, d'y offrir un flambeau de cire blanche orné de l'écusson de la ville et d'assister le même jour à une procession publique. Aussitôt, nous en avons les procès-verbaux signés de tous les magistrats, le fléau cessa avec la même rapidité que la première fois, et c'est de là que date pour la ville de Marseille cette dévotion du Sacré-Cœur qui a été si féconde pendant la Révolution et qui de nos jours s'est montrée avec tant d'éclat. De tels événements ne traversent pas une contrée aussi chrétienne que l'était alors la Provence sans y jeter une lumière. À l'exemple de l'illustre Henri de Belzunce, les archevêques d'Aix, d'Arles, d'Avignon et les évêques de Toulon et de Carpentras s'empressèrent de donner des mandements pour l'établissement de la fête. Tout le midi eut bientôt acclamé la dévotion du Sacré-Cœur. C'est peu après, et dans des circonstances aussi favorables, que parut enfin la vie depuis si longtemps attendue de la bienheureuse Marguerite Marie. Elle avait pour auteur Monseigneur Languet, autrefois vicaire général d'Autun, supérieur de la Visitation de Paris, alors évêque de Soissons et plus tard archevêque de Sens. Nul n'était mieux placé que lui pour connaître la bienheureuse, puisqu'il avait été en relation de tous les jours avec ses contemporaines et ses disciples. Malheureusement, la sécheresse du XVIIIe siècle avait un peu déteint sur lui, et d'autre part, les violentes attaques des rationalistes et des impies gênaient sa piété. Au lieu de raconter, il discuta, tâcha d'expliquer ce qu'il aurait fallu contempler. Le XVIIIe siècle n'était pas fait pour comprendre une pareille figure, ni pour la peindre, et son œuvre, froide, incomplète, à la fois timide et indiscrète, augmenta la tempête qu'elle aurait dû conjurer. Ceux qui n'ont pas eu occasion de feuilleter les écrits du XVIIIe siècle, les pamphlets, les journaux, les poésies légères ne peuvent pas se faire une idée de ce qu'il y eut alors de mépris, de raillerie, de colère contre la Bienheureuse et contre le Sacré-Cœur. J'ai eu entre les mains à Dijon un recueil manuscrit où se trouvent des vers de Piron, des Noëls de la Monnaie, des lettres du président Bouillet, des sonnets de tous les beaux esprits de la Bourgogne au XVIIIe siècle. Ce qu'il y a de fades et sottes plaisanteries sur ce nom d'Alacoque que portait la Bienheureuse, ce qu'on y essaye de mauvais et stupides jeux de mots sur la dévotion au Sacré-Cœur, ce qu'on y lance de sarcasmes contre Monseigneur Languet, ne se peut concevoir. Et c'était bien autre chose encore dans les pamphlets jansénistes, qui voudraient parcourir les nouvelles ecclésiastiques, l'organe principal de la secte, seraient étonnés des injures grossières vomies chaque matin contre le cœur de Jésus et son humble apôtre. L'Académie française, dont Monseigneur Languet était membre, y mettait un peu plus de forme. Là, on se contentait de hausser les épaules et de dire en souriant que, pour qu'il se fût décidé à écrire la vie d'une fille si ridicule, il fallait que Monsieur l'archevêque fût tombé en enfance. Pendant que les beaux esprits épuisaient ainsi leurs traits contre la dévotion du Sacré-Cœur, elle continuait sa marche, excitant des colères et soulevant des enthousiasmes, blessante et ravissante à la fois le cœur de l'homme. Déjà, elle sortait de France et rayonnait dans tous les bassins de la Méditerranée. En 1733, elle s'établissait à Constantinople, 1740 à Alep, Damas, dans le Liban. La vie de la Bienheureuse, traduite en arabe et imprimée à Antora, ville de l'anti-Liban, la répandait dans les vastes plaines de la Célé-Syrie, depuis le Grand Hermon jusqu'à Baalbek. Elle allait même plus loin. Dès 1709, on trouve 2 confréries du Sacré-Cœur, l'une à Macao, l'autre à Pékin. Et en 1743, une 3e s'installe dans l'enceinte même du palais des empereurs de Chine. Cependant, Rome hésitait toujours à sanctionner la nouvelle dévotion. Vainement, en 1726, Frédéric Auguste, roi de Pologne, avait adressé à cet effet une supplique des plus pressantes à Benoît XIII. Vainement, en 1728, les évêques de France avaient conjuré le Saint-Père de placer la fête du Sacré-Cœur au nombre des fêtes publiques. Vainement, le roi d'Espagne, Philippe V, et peu après les évêques de Pologne, avaient formé une demande semblable. Rome ne s'en décidait pas. Bientôt même, la Congrégation des Rites donna un décret par lequel, le 30 juillet 1729, sur les conclusions de celui qui allait être, quelque temps après, Benoît XIV, elle refusait absolument l'autorisation demandée. Les jansénistes battirent des mains. Qu'y avait-il cependant qui pût étonner dans les hésitations de la papauté? Il s'agissait d'une révélation privée qui n'avait pas encore été examinée canoniquement, d'une religieuse, morte, il est vrai, en odeur de sainteté, mais dont le procès de canonisation, commencé en 1715, était encore sous les scellés, d'une dévotion enfin qui touchait au plus profond mystère du christianisme, mais dont les premiers théologiens ou historiens n'avaient pas toujours parlé avec assez d'exactitude. D'autre part, cette dévotion confinait de si près à la question physiologique des fonctions du cœur dans l'organisme humain qu'au dire des jansénistes, on ne pouvait pas résoudre l'une sans trancher l'autre. Il y avait donc à regarder de près avant de donner une solution définitive. Et au lieu de blâmer la papauté, il convient ici d'admirer sa prudence. 36 nouvelles années. De 1729 à 1765, furent employés à laisser mûrir la question dans l'esprit des théologiens, dans les discussions des écoles, dans le cœur des chrétiens, dans les intuitions des saints, jusqu'à ce qu'enfin, après que le pieux et docte de Galifet eût publié son grand ouvrage, soumis à la congrégation de l'index et approuvé par elle. Après que saint Alphonse de Ligorie eut jeté dans cette discussion le poids de sa science théologique et de sa sainteté, apparut tout à coup celui que la Providence avait choisi pour inaugurer solennellement et dans toute l'Église le culte du Sacré-Cœur. À peine assis sur la chaire de Saint-Pierre, l'illustre Clément XIII, éclairé par les menées de plus en plus ardentes des jansénistes et par les sollicitations incessantes des évêques, surtout de ceux de Pologne, évoqua de nouveau la question et la résolut aux applaudissements de l'Église. Un décret en date de 1765 accordait aux évêques de Pologne et à l'archiconfrérie romaine la permission de célébrer, avec messe et office propre, la fête du cœur de Jésus. Liberté était laissée aux autres évêques de la chrétienté de solliciter l'extension de cette permission à leur diocèse. À peine ce décret était rendu que l'assemblée du clergé réunie à Paris se hâtait d'y souscrire sur les instances de la pieuse reine Marie Leczinska et décidait que la dévotion et le culte du cœur de Jésus seraient établis dans les diocèses de France. Dieu réunissait à la fois le cœur de la Pologne et le cœur de la France et les faisait travailler ensemble. À la veille de leur immense malheur, à l'épanouissement du culte du cœur de Jésus dans l'Église. On peut croire que ce cœur, le plus fidèle de tous les cœurs, saura rendre au jour ce qu'il a reçu. Voilà où l'on en était en 1765, moins d'un siècle après la mort de la Bienheureuse. La première partie de sa mission était réalisée. La dévotion au cœur de Jésus était officiellement établie dans l'Église. Et si la fête solennelle demandée par notre Seigneur pour le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement n'était pas encore obligatoire, déjà, du moins, elle était autorisée par les souverains pontifes. Le reste n'était plus qu'une affaire de temps. Quant à la seconde partie de la mission de notre Bienheureuse, celle qui regardait la France et le roi, elle était moins avancée. Louis XIV était mort, trop aveuglé par ses passions, et quand ses passions se furent refroidies avec l'âge, trop enivré par son orgueil pour avoir rien soupçonné de l'abîme où ses erreurs et ses désordres allaient conduire la France, Louis XV qui lui succéda vit le péril, car d'année en année, le gouffre se creusait. Mais il s'en émut peu. La monarchie durerait bien toujours autant que lui. Le reste n'importait guère à ce voluptueux égoïste. À plus forte raison, ni l'un ni l'autre ne songeait aux remèdes surnaturels que Dieu avait fait connaître à la Bienheureuse. On douterait même, en voyant combien peu il s'en occupait, si cette seconde révélation était arrivée jusqu'à eux. Cependant, Quand on regarde de plus près, on reste convaincu que la mission confiée par la Bienheureuse à la mère de Sommez avait été remplie et que Louis XIV savait exactement ce que Dieu voulait de lui. Si triste, en effet, que soit cette cour de Versailles, elle est toute pleine du Sacré-Cœur. C'est lui qui console les reines affligées, les épouses délaissées, les âmes agitées de tristes pressentiments. On croit même apercevoir dans celles qui touchent de plus près à Louis XIV et à Louis XV, je ne sais quels efforts délicats pour suppléer à ce qu'ils devraient faire et qu'ils ne font pas. Si le second monastère de Paris, par exemple, entreprend en 1698 de construire, sur les desseins de Mansart, une admirable chapelle au cœur de Jésus, c'est la reine d'Angleterre qui pose la première pierre et qui veut être inscrite la première sur le registre de la confrérie. Un peu après, le troisième monastère de Paris, celui de Chaillot, se décide à établir, tous les premiers vendredis du mois, un salut solennel avec amende honorable au cœur de Jésus. Souvent, on aperçoit dans l'assistance Madame la Duchesse d'Orléans, à genoux par terre, confondue dans la foule, cherchant à se cacher, cherchant bien plus encore à cacher ses larmes et les douloureuses anxiétés de son cœur. À la même époque, toutes les personnes de la cour se pressent autour de la sœur Marie-Éléonore, princesse de Lorraine, humble et pauvre religieuse de la Visitation de Paris, qui avait reçu le voile des mains de la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, pour la suppléer de les inspirer et de les inscrire sur les registres de la confrérie du Sacré-Cœur. À la cour de Louis XV, la dévotion grandit encore. À côté de ces salons où trônent les Pompadours et les Dubarry, il y a d'humbles oratoires où se réfugie en larmes la plus admirable famille royale, la pieuse reine Marie Leczinska, ses quatre filles, dont l'une fut Madame Louise de France, le dauphin qui fut père de Louis XVI, et sa jeune et si sainte épouse. Jamais tant d'infamies ne côtoyèrent, dans la même maison, de si angéliques vertus. Or, dans toute cette famille royale, la dévotion au cœur de Jésus est si vive, elle se traduit dans des démarches si expressives, qu'il est impossible de croire qu'on ne connaissait pas à la cour la révélation de la Bienheureuse relative au roi et à la France. C'est la reine, la si méritante épouse de Louis XV, Marie Leczinska, qui sollicite et qui obtient des évêques de France réunis à Paris pour l'Assemblée de 1765 que le culte public du Sacré-Cœur soit établi selon ses ardents désirs dans tous les diocèses de France. Elle et ses filles ne trouvent pas d'autre consolation au milieu d'ineffables douleurs privées et d'inévitables appréhensions de malheurs publics que le culte du cœur de Jésus. Le dauphin va plus loin. Il fait ériger dans le palais même de Versailles, pour leur être un refuge à tous, une chapelle en l'honneur du Sacré-Cœur. C'est de là que sortit un jour, belle et pure, pour s'enfermer aux Carmélites, la fille de Louis XV, Madame Louise de France, que l'Église a déjà déclarée vénérable, et qu'elle va placer sur les autels. Si le sacrifice d'une colombe sans tache eût été en proportion avec nos crimes, la France aurait été sauvée. Mais il avait été réglé dans les adorables desseins de Dieu que l'immolation même du roi ne suffirait pas et que la France ne serait sauvée que par le Sacré-Cœur. Le fils de celui qui avait élevé un oratoire dans le palais de Versailles au cœur de Jésus, Louis XVI, ne fut pas montée sur le trône que la tempête éclata. Elle allait être terrible. Chaque année, une ancre cassait. Bientôt, il fut évident que nulle main humaine ne pourrait plus tenir le gouvernail. Ce fut alors que l'infortuné Louis XVI se décida trop tard à un acte qui eût peut-être conjuré le danger s'il avait été fait à temps. Tombé du trône dans une prison, accablé non pas de ses malheurs, il avait l'âme assez grande pour monter plus haut, mais des malheurs de la France, voyant qu'il n'y avait de ressources nulle part, il se souvint de la bienheureuse Marguerite Marie, du secret qui avait été confié à son aïeul, et se décida à accomplir enfin cette consécration de la France au cœur de Jésus, que Dieu avait recommandé, demandé à ses pères et qui n'avait pas été réalisé. De cette main et de ce cœur qui, si peu après, allait écrire ces pages sublimes qu'on appelle le testament de Louis XVI, il rédigea lui-même la consécration de sa personne et de son royaume au cœur de Jésus. Voici cette consécration où l'on retrouve les termes mêmes de notre bienheureuse, les choses précises que Dieu lui avait demandées et qui, nous arrivant à travers les larmes, les angoisses de la prison de Louis XVI, a quelque chose de solennel et de tragique, comme ces derniers cris d'un naufragé qui cherche encore à sauver ce qu'il aime et qui ne le peut plus. Vous voyez, ô mon Dieu, toutes les plaies qui déchirent mon cœur, et la profondeur de l'abîme dans lequel je suis tombé. Des maux sans nombre m'environnent de toutes parts. À mes malheurs personnels et à ceux de ma famille, qui sont affreux, se joignent, pour accabler mon âme, ceux qui couvrent la face du royaume, les cris de tous les infortunés, les gémissements de la religion opprimée retentissent à mes oreilles, et une voix intérieure m'avertit encore que peut-être votre justice me reproche toutes ces calamités, parce que dans les jours de ma puissance, je n'ai pas réprimé la licence du peuple et l'irréligion qui en sont les principales sources, parce que j'ai fourni moi-même des armes à l'hérésie qui triomphe, en la favorisant par des lois qui ont doublé ses forces et lui ont donné l'audace de tout oser. Ô Jésus-Christ, divin rédempteur de toutes nos iniquités, c'est dans votre cœur adorable que je veux déposer les effusions de mon âme affligée. J'appelle à mon secours le tendre cœur de Marie, mon auguste protectrice et ma mère, et l'assistance de Saint-Louis, mon patron et le plus illustre de mes aïeux. Ouvrez-vous, cœur adorable, et par les mains si pures de mes puissants intercesseurs, recevez avec bonté des vœux satisfactoires que la confiance m'inspire et que je vous offre comme l'expression naïve de mes sentiments. Si par un effet de la bonté infinie de Dieu je recouvre ma liberté, ma couronne et ma puissance royale, je promets solennellement de révoquer le plus tôt possible toutes les lois qui me seront indiquées, soit par le pape, soit par un concile, soit par quatre évêques choisis, parmi les plus éclairés et les plus vertueux de mon royaume, comme contraires à la pureté et à l'intégrité de la foi, à la discipline et à la juridiction spirituelle de la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, et notamment la constitution civile du clergé. De prendre dans l'intervalle d'une année, tant auprès du pape qu'auprès des évêques de mon royaume, toutes les mesures nécessaires pour établir, en suivant les formes canoniques, une fête solennelle en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, laquelle sera célébrée à perpétuité dans toute la France, le premier vendredi après l'octave au Saint-Sacrement, et toujours suivi d'une procession générale en réparation des outrages et des profanations commises dans nos saints temples pendant le temps des troubles par les schismatiques, les hérétiques et les mauvais chrétiens. 3. D'aller moi-même en personne, sous 3 mois, à compter du jour de ma délivrance, dans l'église Notre-Dame de Paris ou dans toute autre église principale du lieu où je me trouverai, et de prononcer, un jour de dimanche ou de fête, au pied de ce maître-autel, après l'offertoire de la messe, et entre les mains du célébrant, un acte solennel de consécration de ma personne, de ma famille et de ma messe, de donner à tous mes sujets l'exemple du culte et de la dévotion qui sont dus à ce cœur adorable. 4. D'ériger et de décorer à mes frais, dans l'église que je choisirai pour cela, dans le cours d'une année à compter du jour de ma délivrance, une chapelle ou un autel qui sera dédié au Sacré-Cœur de Jésus et qui servira de monument éternel de ma reconnaissance et de ma confiance sans borne dans les mérites infinis et dans les trésors inépuisables de grâce qui sont renfermés dans ce cœur sacré. 5. Enfin, de renouveler tous les ans, au lieu où je me trouverai, le jour qu'on célébrera la fête du Sacré-Cœur, l'acte de consécration exprimé dans l'article 3e, et d'assister à la procession générale qui suivra la messe du jour. Je ne puis aujourd'hui prononcer qu'en secret cet engagement, mais je la signerai de mon sang s'il le fallait, et le plus beau jour de ma vie sera celui où je pourrai le publier à haute voix dans le temple. Ô cœur adorable de mon Sauveur, que j'oublie ma main droite et que je m'oublie moi-même, si jamais j'oublie vos bienfaits et mes promesses, si je cesse de vous aimer et de mettre en vous ma confiance et ma consolation. Voilà cette consécration de la France au cœur de Jésus, par les lèvres ou plutôt par le cœur du roi martyr, qui ne sent que la parole de la Bienheureuse était arrivée à Louis XIV et s'était transmise comme un secret, comme une espérance pour l'heure du péril. Tout ce que la Bienheureuse avait demandé est là, en effet. Une consécration de la France au cœur de Jésus. Un temple national érigé par le roi. Et avant même, une fête. Comme un monument éternel de cette consécration, et une fête enfin, et une procession solennelle le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Où aurait-on pris toutes ces choses si on ne connaissait pas la révélation faite par Dieu à la Bienheureuse? Elles ne sont contenues que là. Il n'y a aucune trace dans aucune histoire de Marguerite Marie, et ce qui est plus étrange encore, jusqu'à ces jours derniers, la visitation elle-même les ignorait. Or ces choses, découvertes si récemment, le roi les connaît en 1791 et promet de les accomplir dès qu'il sera remonté sur le trône. Il le promet en son nom, au nom de la famille royale, au nom de la France. Ne se trouvera-t-il pas un jour ou l'autre quelqu'un pour faire honneur à une telle signature? Après avoir écrit cette consécration de sa main, Louis XVI la remit au père Hébert, son confesseur, supérieur général des eudistes, lequel, craignant qu'un tel acte ne se perdît, en fit tirer immédiatement plusieurs copies. Il en portait toujours une sur lui, les autres se dispersèrent à travers mille périls au milieu des familles chrétiennes. Grâce à cette précaution, le vénérable confesseur de Louis XVI put mourir héroïquement, enveloppé quelques jours après, dans les massacres du 2 septembre, sans que son martyr entraînât la perte d'un monument si précieux. Après la mort du roi, la reine, Madame Élisabeth, Madame Royale, le dauphin, écrasés par le malheur, se tournèrent plus ardemment encore vers le cœur de Jésus, seule espérance au milieu d'un tel naufrage. On en a, dans les mémoires de la duchesse d'Angoulême, une preuve touchante. Un jour, autour du 20 avril 1793, une compagnie de municipaux arriva dans la prison à 10h du soir. Les prisonniers venaient de se coucher. Nous nous levâmes précipitamment, dit Madame Royale. Ils nous lurent un arrêté de la commune qui ordonnait de nous fouiller à discrétion, ce qu'ils firent exactement jusque sous les matelas. Mon pauvre frère dormait. Ils l'arrachèrent de son lit avec dureté pour fouiller dedans. Ma mère le prit tout transi de froid. Ils ôtèrent à ma mère une adresse de marchand qu'elle avait conservée, un bâton de cire à cacheter qu'ils trouvèrent chez ma tante, et à moi ils prirent un Sacré-Cœur de Jésus et une prière pour la France. Leur visite ne finit qu'à 4 heures du matin. Ce Sacré-Cœur de Jésus, dit Madame Sainte-Beuve, et cette prière pour la France, se tiennent plus étroitement qu'il ne semble, et il fallait peut-être avoir toute la foi à l'un pour pouvoir en ce moment prier pour l'autre. De pareilles images circulaient de cachot en cachot. Bientôt les Vendéens les arborèrent sur les champs de bataille. Ces images leur venaient-elles du temple? Connaissaient-ils la consécration de Louis XVI? Probablement, car d'où leur serait venue une telle inspiration? Qui avait pu leur dire que Dieu ne voulait pas seulement un temple national, une consécration nationale, mais l'inspiration du cœur de Jésus sur les armes et les étendards de la France? Toujours est-il que quand ils se levèrent en armes, Henri de la Roche-Jacquelin, Lescure, Charette, Catelineau portaient le cœur de Jésus sur la poitrine. C'était la dernière chose que Dieu avait demandée à la Bienheureuse. Les Vendéens achevaient l'œuvre de Louis XVI. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté une telle consécration de la France, faite par des mains si pures, sortie d'un cœur si digne d'être entendu? On se le demande d'abord avec étonnement. Mais on en trouve bientôt la raison. C'est qu'au jour où il consacra la France au cœur de Jésus, Louis XVI n'était plus roi, il était captif. C'est que les Vendéens étaient des géants, mais n'étaient pas la France. C'est que la France, au lieu d'acclamer la consécration de Louis XVI, traînait le roi sur l'échafaud, et qu'au lieu de s'unir aux Vendéens, elle les fusillait. L'hommage national que Dieu avait demandé n'existait pas. Ainsi s'acheva le XVIIIe siècle. Quand on se met à distance pour le mieux regarder, on y aperçoit comme deux France, l'une qui souffre, l'autre qui fait souffrir. La France des victimes et la France des bourreaux. Sur les victimes, pour les soutenir et les consoler, rayonne le cœur adorable de Jésus. Quant aux bourreaux, ils adorent un cœur aussi, dans l'ombre menaçante où ils se cachent, ou, sous le jour sinistre qui les éclaire, on les aperçoit agenouillés devant le cœur de Marat. Le cœur de Jésus ou le cœur de Marat. C'est ainsi que la question se pose à la fin du XVIIIe siècle, et qu'elle n'a plus cessé de se poser. Il faudra bien, un jour ou l'autre, qu'elle se décide.